الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بشفاء الإسلام dans ces derniers versets de la sourate At-Tariq, sourate que l'imam du soir a lu, j'espère qu'on a écouté avec beaucoup d'attention et qu'on a essayé de se rappeler l'essence des versets qu'on avait expliqués pendant les programmes de Wassama et Wattariq, inshallah, parce qu'on rappelle que c'est ça l'objectif. Hein, l'objectif, c'est pas juste s'asseoir, écouter. C'est sûr qu'à travers le fait de se réunir, d'écouter, on en ressort avec un quota de science, de connaissances, avec des péchés pardonnés, mais l'objectif à long terme reste At-tadabbur bi ayatillah. L'objectif reste la compréhension, ne serait-ce essayer de comprendre le livre d'Allah, essayer de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à travers son livre céleste. Et la meilleure façon de méditer sur l'essence des versets du Coran, c'est de les apprendre par cœur, c'est l'idéal, essayer de comprendre, essayer de capter le tafsir, le sens des versets. Et quand on entend l'imam lire, ben, on essaie de se rappeler du sens des versets qu'on a vus, et là on aura plus de concentration dans la salah. D'accord ? On peut s'entraîner avec des petits sourates, des Qulallahu ahad, Qul a'udhu falaq, tayyib. Mais alhamdulillah, comme on a passé pas mal de semaines chez Wassama et Wattariq, et que l'imam du soir a lu Wassama et Wattariq dans la première raka'a de Salat al-Isha, je me suis dit, alhamdulillah, hein, la majorité des gens qui sont présents au Dars, là, ils vont se rappeler des versets, des sens qu'on avait expliqués les dernières semaines. Alors, dans les derniers versets du sourate At-Tariq, le verset qu'on a cité, Allah Azza wa Jal termine ce sourate en disant: par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. Ceci, c'est-à-dire le Coran, est certes une parole décisive, c'est-à-dire qui tranche entre le vrai et le faux, et non point de plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je prépare une ruse. Accorde aux prophètes donc un délai aux infidèles, accorde-leur un ruwaida, accorde-leur un court délai. Alors, on avait expliqué la dernière fois assez longuement le verset de lequel Allah Azza wa Jal dit Yawma tubla sara'ir. Yawma tubla sara'ir, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Et on avait vu que le jour de Qiyama, chaque être humain, chaque personne sera appelé auprès du tribunal d'Allah pour être jugé sur la totalité des actions, sur la totalité des paroles que la personne a pu prononcer dans ce dunya, sur l'orientation qu'il a donnée à sa vie. Et on avait dit que dans nos relations, ou alors on n'avait pas dit, dans nos relations entre nous, hein, nous, le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de ne jamais porter un jugement sur l'intérieur de la personne. Ne jamais prétendre pouvoir juger quelqu'un en fonction de son intérieur. C'est-à-dire que non, lui il fait ça, mais c'est un hypocrite. Ou alors que lui, non, il vient pas à la salat, mais c'est un homme pieux, ça. Non, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que si jugement on doit porter sur une personne, on se limite à ce qu'on voit, ce qu'on peut constater. Ce qu'il y a dans les cœurs, si au fond de son cœur il y a de bonnes choses, ou au fond de son cœur il y a de mauvaises choses, ça c'est entre lui et Allah. Ce qui n'est pas visible à nos yeux, nous n'avons pas à nous aventurer et aller juger les gens, aller essayer de fouiller dans la vie des gens pour essayer de tirer des défauts, pour les mettre en avant afin de porter un jugement. Vous savez, quand Allah Ta'ala cache les péchés d'une personne, c'est une grande chance, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Imaginez que chacun d'entre nous, nos péchés intérieurs étaient consultables sur Internet, ou sur Facebook, ou sur Twitter, notre compte, on cliquait Ali, et on pouvait voir qu'Ali a tel défaut. On ne va pas dire Ali, on va dire Ibrahim. Vous cliquez sur Ibrahim, vous voyez qu'Ibrahim il est jaloux, Ibrahim il est possessif, Ibrahim il ment pour s'en sortir, Ibrahim il est comme ci, comme ça, paresseux, il donne pas à manger à ses enfants, et tout, je sais pas, des trucs comme ça. Taïd ? Mais Allah Azza wa Jalla fait en sorte que, subhanallah, les péchés de l'homme restent cachés, restent intérieurs. Donc nous,
devons profiter de cette rahma, de cette facilité, et nous n'avons pas à juger quelqu'un par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. Ce qu'il y a dans son cœur, on ne sait pas, parce que c'est des choses qui sont cachées, donc on porte des jugements sur ce qui est visible. Je ne sais pas si c'est bien compris ça. Une histoire qui va illustrer cette thèse, l'histoire de Usama radiallahu anhu. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Usama? Pendant une bataille, Usama radiallahu anhu était en duel avec un ennemi. Et Usama a eu le dessus. Et au moment d'exécuter l'ennemi, parce que c'est une bataille, hein, il rigole pas, hein, c'est pas pour dire que les musulmans ils faisaient que la guerre. Aller au Moyen-Âge, faisait la guerre. Aller en Asie, ils se tuaient. Hein, donc la guerre, c'est la guerre. Il y avait une guerre. Au moment où Usama est en train de remporter son duel, il allait porter le coup fatal sur son ennemi, cette personne a dit « La ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Usama est interpellé. La personne vient de lire kalimatu tawhid. C'est-à-dire qu'il devient « Inna mal mu'minuna ikhwa ». Du coup, il passe du camp ennemi au camp ami. Mais Usama s'est dit que non, c'est un hypocrite ça. Il le dit pour que je ne le tue pas. Et il l'a tué quand même. La nouvelle est arrivée auprès du prophète alayhi salatu wassalam, rahmatul lil alamin, bénédiction pour les mondes, le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam qui aimait pourtant beaucoup Usama. Le prophète sallallahu alayhi wassalam était très en colère. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله En trois fois le prophète sallam a répété, il a fait des reproches à Usama et Usama, il était tellement triste parce qu'il s'est trompé dans son jugement. Et le prophète l'a expliqué, l'a fait comprendre que nous n'avons pas à juger de l'intérieur des gens. De quel droit tu as pu penser que c'est un hypocrite? Il dit la ilaha illallah pour ne pas être tué, mais en fait c'est un kafir. Non! Il a dit la ilaha illallah, khalas. Maintenant, ce qu'il y a dans son cœur, c'est entre lui et Allah. Nous, musulmans, nous jugeons les gens par rapport à ce que nous voyons. Parce que ce qu'il y a dans les cœurs, hein, aucun être humain ne peut déceler. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait autour de lui des munafiqs. Pendant la période, Makki Madani, Cheikh Ali, Madani. À Makka, il n'y avait pas de munafiqs. Madina, il y avait les khayrats, il y avait les richesses, il y avait... Quelqu'un qui disait « La ilaha illallah », il avait des avantages aussi, d'accord? Et donc là, il y avait des gens qui, ou alors pour protéger leurs biens, ils étaient en train d'aller ça. Le prophète, parfois, il devait côtoyer des munafiqs. Mais le prophète lui-même ne savait pas qui étaient les munafiqs. Alors que les munafiqs, les hypocrites, hein, le stratège contre l'islam, c'était des stratèges diaboliques. Ce qu'ils essayaient de faire, c'était pire que ce qu'un vrai ennemi fait. Lorsqu'un ennemi vous veut du mal, bon, vous savez que c'est un ennemi. Khalas, il faut faire attention, il faut prendre des précautions, on s'en méfie. Mais quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un qui est dans votre camp et il est en train de monter quelque chose contre vous, c'est beaucoup plus dangereux. C'est un coup qui vient derrière votre dos. Donc, malgré le fait que c'était des gens qui avaient de très mauvaises intentions, ce qu'ils faisaient c'était mauvais, mais le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas le pouvoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour déceler ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et si notre prophète ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans le cœur d'un homme, est-ce que de nos jours, quelqu'un peut dire que lui, il a tel défaut, telle chose? Ah, wallah! Pour ça, il ne faut pas juger les gens. Je me rappelle une fois, enfin, je ne vais pas vous dire, mais c'est des choses qu'on ne veut pas dire. Frère, Inch'Allah. Alors, une personne a... J'étais témoin d'une scène, une personne comme ça, a dit, ah là là, on a changé, on a telle chose. Bien que... Une personne qui lisait comme si qu'elle lisait dans le cœur de quelqu'un. Je dis, mais c'est quoi ça? Subhanallah. Il lisait comme si que oui, mais maintenant il y a telle chose. Attendez, notre prophète alayhi salatu wassalam avait des munafiqs et il ne pouvait pas dire qui était munafiq. Quand il y a des gens qui ont osé accuser Aïcha radiallahu anha d'avoir accompli le zina, ces gens-là étaient musulmans à Madina. Mais Allah, le prophète a attendu la révélation et entre-temps le prophète ne savait pas qui était à l'origine de ces fausses rumeurs. Donc on. Ce qu'on veut faire comprendre, le message le plus important, oubliez les petits détails que je viens de dire, le message le plus important, c'est que dans ce dunya, les relations qui doivent régir les mu'minines, les musulmans, c'est ce qui est apparent. D'accord? Mais le jour de Qiyama, il y a certes ce qui est vahir, ce qui est apparent, mais, il y a également ce qui est batin. Et le seul moment où l'intérieur ressort, c'est quand on franchit la limite du dunya, quand on quitte le monde du visible et qu'on passe dans le monde de l'invisible. Quand Malik al-Maut vient, il prend l'âme. Vous savez, c'est possible que ce soit un grand musulman, il est grand, il est barbu, il a de beaux vêtements, mashallah, on a toujours cru que c'était un mouzrouk. Mais au fond de lui, c'était un mounafiq, mais extraordinaire, un grand hypocrite. Et que quand Malik al-Maut prend son âme, Malik al-Maut, il sait exactement c'est qui la personne. Ben, Malik al-Maut apparaît sous un aspect horrible, comme pour les hypocrites et grands pécheurs. Vous comprenez? Et parfois, c'est le contraire aussi. On croit que c'était un bouc simple, mais c'est quelqu'un qui peut-être toute la nuit fait tahajjud. C'est quelqu'un qui tous les lundis, tous les jeudis fait saum, il jeûne, et nous on ne sait pas. On croit que c'est monsieur tout le monde. Mais au moment de mourir, c'est là qu'on voit, enfin on ne voit pas, mais c'est là que l'intérieur ressurgit. C'est au moment où on franchit ce dunya, c'est là que ce qu'il y a dedans, ça ressort, et que c'est ça qui nous profite. Alors donc, le jour de Qiyama, Yawma, Tublas Sara'ir, ça on ne peut pas y échapper ça. Lorsque les cœurs se dévoileront. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم يدين تحدث أخبارها. Le jour où la terre également va livrer ses secrets. C'est-à-dire que à la fin du monde là, tous les secrets, toutes les choses qui étaient enfouies, toutes les choses qui étaient enfouies même dans les cœurs, ben ces choses-là deviendront apparentes. Et ça, c'était la raison pour laquelle on avait beaucoup insisté la dernière fois sur la purification de l'âme, la purification du cœur. On avait oublié le hadith de base. Hein, dans lequel le prophète a dit qu'il y a dans le corps de l'homme un morceau de chair. Si ce morceau de chair là il va bien, ben le corps entier il va bien. Mais si ce morceau de chair là il y a des problèmes dedans, soit qu'il ne fonctionne pas correctement, soit qu'il y a des manquements, soit il y a des vices, V-I-C-E-S, il y a des vices, d'accord, dans ce cas c'est tout le corps qui va souffrir. Et ce morceau de chair c'est quoi? C'est le cœur. C'est-à-dire que si intérieurement mon cœur est propre, ça se ressentira sur le corps entier. Un cœur pur, un cœur sincère, un cœur rempli de bonnes intentions, un cœur rempli d'amour pour son prochain, c'est un homme qui va faire de bonnes actions. Mais malheureusement, un ne marche pas forcément avec l'autre. Parfois, on peut avoir le zahir, l'extérieur qui est admirable, la panoplie du bon musulman. D'accord ? Quand on le regarde, c'est un homme saint, mais malheureusement, dans l'intérieur, dedans, il y a la jalousie, il y a l'orgueil, il y a la fierté, il y a l'hypocrisie, il y a le fait d'être persuadé qu'il n'y a que moi qui suis sur le droit chemin, il n'y a que moi qui connais la vérité, il n'y a que ma famille descendant de tel nom qui peut être proche d'Allah, ceux qui se convertissent ou ceux qui sont de tel machin, ah ça c'est peut-être pas le temps. Il y a des gens comme ça, hein, ils se croient, on appelle ça des nombrilistes. Ils croient qu'il n'y a qu'eux qui connaissent la vérité et tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas vrai ça. Il n'y a que moi qui est vrai. Wallahu musta'an. D'accord ? Donc, l'extérieur peut être admirable, peut forcer le respect, mais ce qu'il y a dedans, mes chers frères, Allah seul le sait. Donc, il faut faire un maximum d'efforts pour travailler nos actions. On le fait ça. Mais il faut faire beaucoup d'efforts également pour travailler notre cœur. Quand nous voyons des défauts, quand nous constatons des défauts, il faut absolument les casser. Il ne faut pas vivre avec ces... Ça, c'est comme une gangrène, ça. Ça pourrit votre cœur jusqu'à ce que vous ayez un cœur qui pue, un cœur qui est rempli. Et le hadith très connu, ça me dit que quand un musulman fait un péché, un point noir sur le cœur, il lui fait un deuxième point noir. Tant qu'il demande pas taouba, les points noirs se grèvent, jusqu'à ce que le cœur devienne noir, obscur. Et quand un cœur est obscur, pensez-vous qu'un cœur obscur peut ordonner au corps d'accomplir de bonnes choses? Pensez-vous qu'un cœur obscur peut avoir de bonnes intentions? Donc, mes chers frères, là-dedans, il y a un piège de shaitan. Faisons très attention. Ça, c'est un discours qui s'adresse à des musulmans, mashallah, qui ont fait un bon parcours déjà dans la religion. D'accord? Ne jamais se dire que moi, je suis sur le droit chemin, c'est bon. Moi, je suis tranquille. Parce que je fais mes salats, parce que je fais telle chose. Ne regardez pas que ce qu'on fait. Regardez ce qu'on ne fait pas. Et ne nous comparons pas. Il ne faut pas se comparer avec nos semblables. Parce qu'on ne va pas très loin comme ça. D'accord? Il faut placer la barre beaucoup plus haut. Il faut regarder l'exemple à travers les sahaba, les ridwanullahi alayhim ajma'in. D'accord? Il ne faut pas se dire que oui, mais j'ai eu tel problème avec quelqu'un, mais j'ai fait ça. Mais l'autre bouc avait eu le même problème avec lui. Il a été pire, hein, il a fait pire que moi. Donc ça va. Attends. Ne te compte, c'est pas. Le prophète ne m'a pas dit que vos voisins, sont comme des étoiles. Suivez n'importe quel de vos voisins, vous accéderez au paradis. Non, ashabi kanujum. Mes compagnons sont comme des étoiles. Suivez n'importe quel des étoiles et vous accéderez au paradis. Hadith du prophète. Donc on comprend qu'on doit se comparer. Yani, notre exemple doit être les sahaba. Ceux qui étaient à l'époque du prophète al-salam, ceux qui ont vécu à l'époque des sahaba, des tabi'in, d'atba' tabi'in. Allons vers ces gens. Lisons le sirah, leurs histoires, leurs récits, comment ils se comportaient dans la colère, comment ils se comportaient dans les moments de conflit, comment ils se comportaient quand ils avaient des problèmes, quand il n'y avait pas d'argent, quand il n'y avait rien à manger, quand il y avait tel souci. C'est à travers leurs réactions qu'on doit essayer de forger notre personnalité. Ne nous comparons pas avec les gens de notre époque. Ils sont aussi pécheurs que nous. Essayons de prendre l'exemple sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'importance de travailler ce cœur, si ce cœur il est propre, il est pur, inshallah les actions vont suivre. Puis une parole merveilleuse, le Mufassir, il a cité, qu'on a oublié de dire un dernier point, il a dit que « Wal imanu idha waqara fil qalbi hamala al-insana ala al-amal » Lorsque la foi, elle a pénétré le cœur, la foi, elle va pousser l'homme à accomplir de bonnes actions. Mais la foi, c'est quoi? C'est le vrai iman. Le vrai iman comme les sahaba avaient. Ce iman qu'ils ont cultivé pendant combien d'années à Mecca? Pendant 10? 13 ans. Ils ont cultivé ce iman-là pendant 13 ans à Mecca. Et jusqu'à l'an, subhanallah, le mi'raj, l'an 10, 9, le voyage nocturne. 9 ou 10, hein? Je crois que c'est 9 ou 10. Pendant près de 9 ans ou 10 ans, il n'y avait pas une action accomplie régulièrement. Pendant près de 10 ans, il n'y avait pas un amal. Il n'y avait pas une action que les musulmans devaient faire tout le temps. C'est uniquement en l'an, si je ne me trompe pas, 10 ou 9, lorsque le prophète a reçu en cadeau de la part d'Allah, qu'on peut dire que maintenant il y a une action à faire régulièrement. Alors que nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, notre religion, elle tourne autour de la salat. Certes, la salat est imaduddin, c'est le pays de la religion, oui. Mais je veux dire que l'essentiel de nos forces pour nous, être musulmans, c'est être à la mosquée. Basta. Alors que les sahaba, pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont travaillé eux? Ils ont travaillé l'amour pour Allah. Ils ont travaillé l'amour pour leurs frères. Le prophète avait expliqué qu'elle arrive à Madina Munawwara. La recette pour accéder au paradis, levez-vous le soir, faites qiyam al-layl, quand les gens dorment. Donnez à manger aux gens et faites salam à tout le monde. C'est-à-dire en se rapprochant d'Allah et en se rapprochant des gens, là on accède au paradis. C'est ça les sahaba, ils ont travaillé pendant 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Tawakkal ala Allah, la confiance en Allah. Quand ils avaient des problèmes, des difficultés avec les kuffar Quraysh, hijra, émigration à Habasha une première fois, émigration en Abyssinie une deuxième fois, et puis tout quitter pour aller vers Madina Munawwara, quitter leur pays, leur culture, quitter tout pour le dîn d'Allah. Des décisions très difficiles à prendre. Accepter de se faire torturer, frapper, fouetter, pour pouvoir rester dans ce dîn de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Al-isti'anatu billah. Iyaka na'budu. Ça on sait ça, on adore Allah. Wa iyaka Nasta'in, et c'est auprès de toi que nous cherchons secours, refuge. Quand ils avaient un problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelque chose qui le préoccupait, immédiatement il faisait deux rak'at, rak'atin. Il n'allait pas vers les zu'ama, il n'allait pas vers les Quraysh, vers les chefs de tribu, voilà, il y a tel problème, essayez d'apporter votre aide. Non, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quel sahaba avait un problème, immédiatement il se connectait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qui construit le iman d'un musulman. Ça, c'est ce qui nous permet que lorsque demain, Allah nous protège, quelqu'un a un problème, il y a un musiba, il y a une épreuve, il y a une difficulté qui nous atteint, on ne va pas essayer de chercher un coupable. Hein? On ne va pas essayer de dire pourquoi je n'ai pas fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais écouté un tel, si j'avais été chez tel docteur, si je n'avais pas été chez un généraliste, j'avais été chez un spécialiste, si au lieu de faire une radio, j'aurais fait un scanner, tralali, tralala, j'aurais. Non! On n'irait pas vers tous ces thèses, on ne va pas vers tous ces thèses. Quand il y a un problème, un, on s'en remet à Allah, raka'atayn. Deux, on se dit qu'il y a une sagesse à travers la décision d'Allah, et on a tawakkal ala Allah, qu'il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah fait, et qu'Allah attend de moi quelque chose. C'est-à-dire, ça c'est la réaction du mu'min. Mais si le iman est vide, ça sonne creux. C'est comme un moque, c'est creux. C'est beau, c'est décoré, il y a des dorures, il y a de belles couleurs, mais c'est creux dedans. Où sont ça va avec l'iman là? Premier qu'un fois il arrive quelqu'un et d'avoir un coup de tac, khala, sous la terre. C'est-à-dire que le iman n'est pas formé. Si on n'a pas les qualités intérieures, on ne va pas loin. Tout comme si on a des péchés intérieurs, oh ben alors là, on ne va pas aucune place non plus. On a vu ce hadith, on se focalise toujours sur un seul péché, mais parce que peut-être c'est un péché qui est présent chez beaucoup, beaucoup d'entre nous, moi-même en premier. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la jalousie détruit les péchés comme le feu consume le bois. Hein, vous connaissez pas encore le hadith, ben mashallah, d'accord? La jalousie, alors, moi je fais plein de bonnes actions. Ramadan arrive, là, khalas, Rajab y arrive, là, faut tirer courant, maman, il faut dépoussiérer, on va commencer à lire et tout, on va se donner à fond et tout. Je fais plein de bonnes actions. Mais mon cœur là, il est sale. Mon voisin tient un nouveau loto. Il a tiré le nouveau, je me rappelle le dernier Peugeot là, 308, je crois 309. Hein? Il a tiré le dernier loto, il a des affaires. Ah ah, regarde, il se travers. T'as l'argent, rien, guette ça, à moins. La jalousie, ça c'est quelque chose de mauvais. La seule jalousie qui est autorisée, c'est quoi? C'est pas le dîn. Ah, ce serait merveilleux là. Là, on serait des malaïka. Ah bon, hein? 2h du matin, il est allumé, comment on se fait tahajjud jusqu'à Fajr. Mais bon, demain, 2h moins de quart. Pas iria annas, pas ostentation. On essaie d'avancer vers Allah. Ah bon, ben, il va devenir un aimé d'Allah. Non, non, il faut que je me réveille plus tôt. Ah, ça, c'est vraiment, la balle est tellement haut, on ne voit plus la balle. D'accord, Allah, Moustan. Pour ça, oui, on peut être jaloux. On peut essayer de. C'est une compétition saine. Pour, hein, c'est comme si on veut avoir les plus hauts grades de le paradis. Mais qu'on soit jaloux parce qu'il a eu tel poste de travail, ou parce que son madame a gagné des enfants, ou parce que quand il rentre, quand il sort de son poste, son coffre il est plein, d'accord, ou que telle chose, il a eu l'augmentation, ça. Allah, tout ça, mes chers frères, tout ça, c'est dunya. Et tout ça, quand cet homme-là, il meurt, son Peugeot, son Mercedes, son grand casque, tout ça, ça, c'est tant pis. Les enfants, ils s'arrachent. Ils pleurent deux coups, mais après, hop, le pactole, papa est parti. On se frotte les mains. Ben alors, c'est un peu caricatural, mais c'est une réalité de la vie. Il n'y a pas de joie, je plaisante, j'exagère. Mais malheureusement, c'est comme ça le dunya. Quand vous quittez, vous mourrez, halas. Il n'y a pas une personne qui peut amener ses biens dans sa tombe. Même si je demande à ce qu'on m'enterre avec tous mes biens, ça m'apporterait quoi? Rien du tout. Ce n'est pas mes biens qui me donneront une vie heureuse dans la tombe, d'accord? Donc, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme, quand une personne meurt, ses biens vont passer pour ses enfants. Alors, dites-moi, ça servit à quoi que vous ayez travaillé 60 ans de votre vie, à fond comme un malade, au-delà de ce que vous étiez censé produire, vous avez fait le double du travail qu'un homme doit faire normalement, et alhamdoulilah, vous avez eu le double. Mais vous laissez la moitié quand vous partez, et plus même. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de laisser autant ses héritiers? Et que quand vous allez mourir, khalas, ils vont se le partager, ils vont peut-être même se déchirer. Ils étaient tous bien ensemble, quatre frères, sœurs, muhabbat, mais quand papa est mort, on la laisse un bâtiment. Un bâtiment, on a trois étages, d'accord? Il nous les quatre. Donc, aïe, comment il fait pour le quatrième là? Donc, là, il faut faire un système, faire une location, SCI, tralala. Ah, on a gagné plus, on a gagné moins. Et puis voilà, khalas, déchirure, cassure de la famille, les frères et sœurs ne se parlent plus, ne se voient plus, le jour du Eid. Ça, c'est des cas, si je vous le dis, c'est que c'est des cas qui arrivent. Ce n'est pas des histoires, malheureusement. Ça, c'est réalité de dunya. Ça, c'est réalité de dunya. Et plus vous avez, plus vous serez questionné. Moins on a, moins on est questionné. Vous savez, ce n'est pas pour rien si le prophète demandait à Allah de le faire vivre parmi les pauvres, mourir parmi les pauvres et être le jour de la résurrection avec les pauvres. Parce que les fuqara, ils entrent au paradis 500 années avant les riches. Et ce n'est pas 500 années de ces 500 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, en expliquant, si je retrouve les termes en ce sens, dit que les pauvres, leur demeure dans le paradis, hein, les gens qui étaient riches dans ce dunya, les mu'min, ils vont admirer ces gens qui étaient pauvres, ils vont admirer leur demeure, tout comme nous, dans ce dunya, nous contemplons les étoiles. C'est-à-dire que le riche musulman dans le paradis, il ne pourra pas accéder au grade du musulman qui était pauvre dans ce dunya et qui est dans le djinn. Allah mustahil. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, si on retrouve le fil, donc, important, oui, si on n'a pas les qualités intérieures, on n'avance pas. qu'avec les qualités extérieures, on n'avance pas. Et si intérieur, et si j'essaie d'arrêter les péchés, hein, je ne fais pas de péché en public, j'essaie de réduire hein, les péchés. On ne dit pas minimiser le péché, il ne faut pas minimiser les péchés. Chaque péché a son importance. On essaie de réduire les péchés, mais si j'ai des péchés intérieurs et je ne m'en soucie guère, alors là, ça va me ronger. Et cette jalousie-là, le poisson m'a dit que cela détruit, consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Alors moi, j'ai fait plein de choses dans Ramadan et parce que je suis jaloux, ben, je suis en train de manger, de détruire mes péchés. Le riba. Dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui ne me fait pas, ah, vous voyez comme ci, comme ça, comme ça. Je viens de faire ça là, premier saf, avec mon grand barbe là, ma fin fait mon zikar, ma fin fait mon doigt, tout. Les hommes commencent par dire, hein, vous voyez, tel là, ou la vie vient de passer en l'auto là, ça, l'auto là, crédit, ça. Ou c'est un argent, c'est l'auto cash, hein, l'intérêt, haram, ça. Et ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai dû dilapider mes actions là. Je ne sais pas combien, Wallahu alam, mais subhanallah. Et ces ribates-là, quand est-ce que je vois les conséquences? Là-haut. Quand on dit que les péchés intérieurs, là, si on ne s'en débarrasse pas, ça peut être plus grave que les péchés extérieurs. Surtout quand ça concerne les droits des gens. Le prophète m'explique hadith, là on a sorti de soi tout parler. Le prophète m'a dit, c'est un hadith que tout le monde ne connaît pas encore maintenant aussi. Atadrouna mal mouflis. Savez-vous qui est le mouflis? Le sahaba dit au prophète d'Allah, le mouflis c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. En arabe, mouflis, le ratan, c'est celui qui est. Qui a la poche vide, d'accord? Celui qui n'a pas d'argent. Ah, et le poisson m'a dit non, le mouflis, c'est celui qui, dans ce monde, a fait de bonnes actions. C'est-à-dire, le poisson m'explique, c'est quelqu'un qui a fait le hajj, qui a lu le Coran, qui a fait beaucoup de bonnes actions, mais, waqad shatama hada, waqad fahada, wa akhada mali hada, il a, comme a parlé l'un seul, mais cette personne, de ce dunya, en même temps, il insultait les gens, il accusait les gens, il faisait telle chose. D'accord? Il dit, et le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal, appellera les victimes, et les victimes appelleront qui eux? Les personnes qui les ont fait du tort, les personnes qui ont fait ribattre sur eux, qui ont raconté n'importe quoi, qui ont essayé, de les atteindre dans leur izza, dans leur honneur, en colportant des fausses nouvelles, les personnes qui les ont accusés de telle chose, les personnes qui ont volé leurs biens, qui ont abusé sur ces gens-là. Et en ce jour, le prophète Ali Sallam explique que Allah Ta'ala fera justice entre eux. De quelle manière? Allah Azza wa Jal donnera des bonnes actions de l'oppresseur. Il prendra des bonnes actions de l'oppresseur. Il donnera à l'opprimé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait hajj, j'ai fait umrah, j'ai fait telle chose. Et ces récompenses-là vont aller à telle personne que j'ai critiqué une fois basse dans ma vie. Mais j'ai oublié de demander pardon avant de mourir. Et quand il n'y a plus de bonnes actions pour leur donner, Allah Ta'ala prendra de leurs péchés et ils mettront dans le compte de l'oppresseur. Ça, c'est extrêmement grave, ça. Le chemin que j'ai parcouru dans ce dunya, pour arriver, et ça c'est les dernières étapes avant l'accès au paradis. Et là je me rends compte qu'à cause de ces péchés, à cause de ces choses que j'ai minimisées, un ribat, un bortan, un colporté, un moukatage par-ci, par-là et tout, blesser le cœur de quelqu'un sans se soucier que j'ai cassé son cœur, je ne lui demande pas pardon, et voilà je fais cash le joie de Qiyama en échange d'actions bonnes et mauvaises. Donc mes chers frères, important pour avancer dans le dîn, avoir un iman solide, travailler l'intérieur, enlever les mauvaises choses, tous les défauts qu'il y a dans notre cœur et apporter les qualités de iman, d'akhili, les qualités de a'mal qalbi, des actions intérieures et de la sorte, inshallah, avec les actions extérieures, inshallah, nous pourrons avancer. Yawma tubla sarair. Hada. D'ailleurs, hein, une autre étape où on va terminer aussi, on verra hein, qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur des gens. Hadith qu'on avait expliqué il y a peut-être un mois à peu près, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam explique le joie de la résurrection, tous ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur seront appelés pour passer sur le pont, as-sirat, sans distinction, même les munafiqs. Mais au moment de passer sur le sirat, c'est là que les munafiqs vont chuter. Parce que c'est là que c'est une autre étape où l'intérieur des gens apparaît. Tous ceux qui sont là, c'était des ahli la ilaha illallah. Mais sans distinguer qui était mukhlis, qui était munafiq, qui est fasiq, pécheur endurci, qui ne fait jamais de péché. Mais au moment de passer sur le pont, là, le pont, lui, l'objectif, c'est de distinguer les bons musulmans des mauvais musulmans et des hypocrites. C'est là que le munafiq tombe, c'est là que le pécheur est en train de chuter, il attrape le sirat d'une main, il chute de l'autre main, il essaie de s'accrocher, il marche à quatre pas jusqu'à y arriver, etc. etc. Donc c'est à ces moments-là qu'on voit Yom Atoub la Sarair, entre autres, qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une anecdote, hein, pour qu'on comprenne bien que les actions extérieures, c'est pas tout ce qui compte. Regardez l'exemple des Khawarij. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé que viendra un jour où il y aura des gens qui auront ce comportement, les ahl al-takfir, des gens selon lesquels, pour lesquels, si quelqu'un accomplit un péché, un guna kabir, un grave péché, cette personne est kafir. Il n'y a pas de tawba possible pour cette personne. Et notre prophète, c'est des gens, pour eux, se révolter contre l'imam et tout, faire des curies, des révoltes, c'est complètement autorisé. C'est un mouvement qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a expliqué que viendra un jour où il y aura telle personne, tel groupe de personnes. Et le prophète m'a dit que si vous les rencontrez, combattez-les. Le prophète m'a dit aux sahaba. Et le prophète pourtant dit que alors que ces gens-là, ils font tellement de bonnes actions que si vous compariez vos bonnes actions à leurs bonnes actions, ce serait insignifiant. Et à qui le prophète s'adresse là? Aux sahaba. Le prophète dit aux sahaba que si on comparait les bonnes actions de ces gens-là avec vos bonnes actions, yani vos bonnes actions seraient insignifiantes tellement c'est des gens qui font des a'mal. Et le prophète m'a décrit comment ils auront des signes de prosternation sur leur front. C'est-à-dire des abid lillah, des gens qui adorent Allah du matin au soir, mais c'est que zahir. Intérieurement, ils n'ont pas les qualités de iman. Et ils n'ont pas le ilm, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils déclarent kafir, ils se révoltent, ils tuent, ils versent le sang et tout, gratuitement, sans savoir, sans faire. Et le prophète nous a donc donné l'exemple de ces gens-là qui quittent la religion aussi rapidement que la flèche quitte l'arc. Ça, c'est un exemple classique à travers lequel les ulama expliquent qu'il faut travailler son iman. Il faut avoir les bases du aqidah, la croyance, le dogme islamique authentique. Sinon, les actions n'apportent rien à l'être humain. Et en conclusion, on a dit, cher qui fait le tafsir, فَعَلَيْنَا أَن نَعْتَنِي بِقُلُوبِنَا وَأَعْمَالِهَا وَعَقَائِدِهَا وَاتِّجَاهَاتِهَا وَإِصْلَاحِهَا وَتَخْلِيصِهَا مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ والحقد والبغضاء وكراهية ما أنزل الله على رسوله. Il dit que c'est pour ça que chaque musulman doit faire un effort sur lui-même pour travailler son cœur, travailler ses croyances, travailler l'orientation qu'il va donner à sa vie et enlever le shirk, les bid'a, la jalousie, la haine, tout ça. Toutes ces choses-là, il faut les enlever de notre cœur. Il dit que c'est une citation merveilleuse. Hein? Lakin, hein? Il dit que l'iman, il a waqara fil qalbi hamala l'insan ala l'amal. C'est ce que je disais. Lorsque quelqu'un a le vrai iman dans son cœur, ça le poussera à accomplir de bonnes actions. Mais, lakin al-amal al-zahir, qad la yahmilu l'insan ala islahi qalbi. Il dit, mais attention, les bonnes actions extérieures ne poussent pas forcément le musulman à améliorer son intérieur. Ça, c'est un peu plus compliqué, ça. Il dit que quand le vrai iman s'est installé dans le cœur, ça vous poussera automatiquement à faire de bonnes actions. Quand la source elle est pure, vos actions seront correctes. Vous n'aurez aucune mauvaise intention. Il dit, mais uniquement des bonnes actions extérieures, c'est comme nous, on a de bonnes actions extérieures, mais uniquement la kin al-amal al-zahir. Parfois, ce n'est pas suffisant. Qad la yahmilu al-insan ala islahi qalbi, les bonnes actions ne sont pas suffisantes pour travailler pour purifier le cœur de l'être humain. Il y a un autre effort à faire sur ce cœur. Et souvent, on se suffit de la situation. Voilà, je fais mes salats, c'est bon. Mais on ne va pas à la recherche des défauts qu'on a intérieurement. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et la semaine dernière, donc, c'était à peu près le même verset qu'on avait développé. On avait oublié quelques points qu'on a rappelés aujourd'hui. Et on avait développé l'autre verset. Fama alahu min quwwati wa la nasir. Rappel, n'oublions pas que le jour de Qiyama, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de secours possible. Il n'aura alors ni force, ni secoureur. Hein? Dans ce dunya, quand on a un problème, on peut téléphoner à quelqu'un, à la préfecture, à la mairie, au conseil général, au conseil régional ou ailleurs. On peut trouver quelqu'un qui nous aide. Hein? Et ça, c'est valable dans le monde entier, dans toutes les cultures. D'accord? Même en Arabie, hein, je me souviens, il y avait une petite expression. Quand on a besoin de l'aide d'une personne, on appelle ça « wasita ». Wasita. Rappelle le terme « wasita ». Wasita, c'est un petit coup de main. Un petit coup de main de quelqu'un, un piston, voilà. Un piston, wasita. Ben, on appelait ça le vitamine waouh. Elle dit, le vitamine waouh, ça passe partout, ça. Si quelqu'un a un vitamine waouh, khalas, il peut avoir travail à droite, à gauche, il peut avoir des aides, il peut avoir tout. Hein, c'est le piston. Si vous êtes pistonné dans le dunya, khalas, toutes les portes sont ouvertes, vous avez diplôme, pas diplôme, expérience, pas expérience. C'est bon, quelqu'un vous pistonne, il vous fait gagner ce que vous voulez, d'accord? Mais un jour de qiyama, pensez-vous qu'on va avoir des pistons? Pensez-vous que telle personne, bon, j'ai bien agi envers lui, là-haut, il va penser à moi. Là, wallah, le jour de Qiyama, le papa ne connaît pas son fils, le fils ne veut pas entendre parler de son père. Le mari qui a, la femme qui a vécu avec son mari pendant 50 ans, noce de diamant, noce de, je ne sais pas, qui était matériau encore, la femme, autant qu'elle a eu des bienfaits de la part de son mari, elle ne veut même pas entendre le son, la voix de son mari, qui lui demande, donne-moi une action, aide-moi. Je lui dis, ah, wallah, le jour de Qiyama, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. C'est uniquement le iman et les amal, les salih. C'est pour ça, mes chers frères, on doit se faire du souci pour notre akhira. Et je ne dois pas faire des actions parce que je le fais. Ce n'est pas que je fais salat parce que je suis musulman. Non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des nasara qui vont dans le lieu d'adoration parce qu'ils sont un nasara. Tout comme il y a des yahoud qui vont dans le machin, le lieu d'adoration parce qu'ils sont yahoud, etc., etc. Chaque personne qui appartient à une communauté religieuse accomplit de bonnes actions. Pourquoi? Parce que c'est ma culture, c'est mon identité. Je suis de telle religion, ben je vais à tel endroit où je fête janvier ou février ou mars, parce que ça c'est ma religion. Mais nous on ne s'arrête pas là. C'est pas que je fais Ramadan parce que je suis musulman. Il dit, monsieur, Ramadan il arrive là. Il dit, ben, pourquoi? Ça représente quoi pour vous le Ramadan? Ben le Ramadan, ben pour moi c'est une action importante, hein, ça fait partie des devoirs du musulman. Basse. C'est parce que c'est un devoir du musulman. Oui, vous avez une bonne partie de la réponse. Khalas. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que ce jour-là, quand vous n'avez pas d'amis, pas de famille, pas de camarades, pas d'aide, rien, ben vous avez vos actions avec vous. Quand je fais ma salat al-Isha, mon objectif à long terme, c'est que le jour de la résurrection, je trouve dans mes provisions la salat al-Isha du 6 mai à 20 heures. Hein, et au moins je sais que le jour de Qiyama, cette action là elle sera avec moi, elle va renforcer le poids de le mizan pour que ça pèse, pour que j'ai plus de bonnes actions pour l'accès au paradis. C'est pour ça que de un, je dois faire de bonnes actions pour l'au-delà, et deuxièmement je dois éviter les péchés pour que le jour de Qiyama je ne me retrouve pas avec ces fardeaux là, ces péchés qui vont me ralentir, qui vont me poser des problèmes. On va compléter, Inch'Allah, la prochaine fois. On voulait terminer sur le Tariq. Inch'Allah, on complétera. Le verset qu'on a cité et qu'on n'a pas pu compléter. Et il y a un verset, subhanallah, ça c'est, Inch'Allah, peut-être le Jumu'ah qui vient, on va essayer d'aborder ça ici. Innahum yakiduna kaida. Ça c'est magnifique ça. Et on est vraiment à l'époque où il faut développer ce genre de verset. Ils se servent d'une ruse. Parle de qui là? Les kuffars. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire pour contrer l'islam et pour détruire l'islam dans son œuf? Ils voulaient tuer le prophète, tuer tous les sahabas, pour que ce dîn ne se propage pas. Ça reste à Makka et ça reste une affaire fermée, puis khala, c'est fini. Innahum yakiduna kida. Ils essaient d'inventer hein, des pièges, des tentatives, des plans. Mais de nos jours, c'est la même chose. Mais seulement, il n'y a plus de 100 ou 200 musulmans. Il y a des millions, milliards même, non? Il y a des milliards même de musulmans. Mais on essaie de trouver des une pratique, on essaie d'interdire certaines choses, on essaie de d'instaurer certaines choses pour bloquer la progression de l'islam, pour casser le musulman de son image, pour faire en sorte que les, surtout, que les nouvelles générations de musulmans aient honte de leur appartenance religieuse. L'objectif, c'est que même si nous continuons à pratiquer, mais que tellement les enfants, ils entendent l'islam, l'islam, l'islamisme, islam égale terrorisme, islam égale intégrisme, islam égale etc., etc., à force de l'entendre, à un moment donné, les générations qui vont venir après, ils ne voudront plus s'identifier à ça. Parce qu'ils auront tellement, vous savez, le cerveau, c'est une grosse éponge. Hein, plus vous écoutez, plus ça rentre. Parce qu'on entend déjà les messages normaux. Maintenant, si on rajoute les messages subliminaux et tout ça rentre dedans. Ben, les nouvelles générations, peu à peu, l'objectif c'est ça, qu'ils s'éloignent du dîn. Et vous pensez qu'ils vont réussir leur plan? Partiellement. Si de notre côté, on ne fait pas d'efforts pour ramener l'iman de l'école de nos enfants. Mais de là à éradiquer la ilaha illallah sur le dunya, impossible. Parce qu'Allah a décidé que ce kalimant-là arrivera dans toutes les contrées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous avait expliqué. Donc, innahum yakiduna kaida, ils se servent d'une ruse. Mais Allah ta'ala prévient, wa akidu kaida, et moi aussi, je prépare une ruse. Petite histoire, vous rappelez la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit quitter Makkah pour aller s'établir à Madina. Alors là, les Quraysh, hein, ils vont faire un grand mashwara. tous les ouama, les chefs de tribu sont là, dit qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cet homme de rejoindre ses compagnons là-bas. Parce qu'ils savent que s'il rejoint ses compagnons, là-bas ce sera une terre d'accueil, l'islam va se propager, hein, et il y aura beaucoup plus de conversions, ils vont envoyer des da'is partout, ils vont peut-être même devenir une ville phare en Arabie. Il faut bloquer ça. Donc il y en a qui disent qu'on va l'emprisonner, d'autres qui disent qu'on va, le chasser, d'autres qui disent qu'on va le tuer. Et puis ils disent que non, on ne peut pas l'emprisonner et les compagnons vont venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le chasser, ils vont le retrouver quelque part, ils vont le ramener à Madina. C'est-à-dire que si on le tue, hein, toute la tribu de Quraysh, hein, les ascendants du prophète, hein, ils vont venir, ils vont se venger. Donc, et ensuite, Shaitan est venu. Sur certaines choses, c'était Shaitan qui a donné cette idée que voilà, que de chaque tribu, il y a un jeune homme qui vient et qui va attendre le prophète lorsqu'il se réveille. Chacun donne un coup d'épée, au moins le sang sera distribué en toutes les tribus de la Mecque. Et donc là, il n'y aura pas de vengeance. Bref, innahum yakiduna kayla. Regardez combien de temps ils ont pris pour mettre au point ce plan. Réfléchis, la matière grise est devenue blanche. Hein. Travail, trouver. À chaque fois qu'ils trouvaient une idée, ils se rendaient compte que non, ça ne pouvait pas tenir. Ça rappelle un petit peu quand on voit 24 heures chrono, là, quand on réfléchit comment on va attraper tel terroriste et tout. Réfléchis. Mais il y en a, vous savez, il y a des gens qui se réunissent comme ça, qui réfléchissent comment contrer la progression de l'islam. Comment faire en sorte que le musulman ait honte de sa religion. Comment faire en sorte que le musulman ne veuille plus pratiquer sa religion. Alors, il n'a combien qui d'où n'a qu'aïda. Tout ça, on a fini inventé, fini réfléchi. Il y a eu 10 jeunes. Mais quoi? Chacun avec son épée. Ils ont passé la nuit, Masakin, dans le froid. Attend le Prophète, il dort là. Il attend, il dit qu'il lève ou qu'il lève. Quand il lève, c'était Hazrat Ali. Il dit il y a un problème là. Il n'était pas sur le bon réseau. Ils se sont trompés et le Prophète était sorti devant eux. Devant eux. Le Prophète ne s'est pas caché. Il n'a pas attendu l'obscurité, il n'a pas mis une couverture. Allah fait en sorte que le Prophète sort et passe devant eux et ils n'ont rien vu. Innahum yakiduna kaida. Mais en finalité, qui c'est qui décide? C'est Allah qui décide. Et qu'Allah a décidé d'envoyer sa nusra, la nusra d'Allah, elle est inarrêtable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. On va voir également, inchallah, la prochaine fois, à la fin, lorsque, ça c'est magnifique cette histoire, lorsque le Prophète sallam, il a conquis Makkah. Là, c'est des étapes de nusra. Comment ils ont essayé de bloquer? Et que d'année en année, Allah a envoyé son aide au Prophète sallam. À la fin, le Prophète sallam est à Makkah, fatche Makkah, et il attrape la toile de la Kaaba. Et regarde les Quraysh, ces ennemis depuis combien de temps? Depuis 13 plus 10, ça nous fait depuis 23 ans. Il y a des gens qui étaient encore vivants, qui le combattaient. Des ennemis de 23 ans, pas des ennemis de 10 ans, hein? Des ennemis de 23 ans. Et le Prophète me dit que, oh, ma'ashara Quraysh, qu'est-ce que je fais de vous maintenant?